France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Christine Anger, réalisée par Sam Bakiast. Et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité, co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Achetez américain ou bien nous augmenterons les taxes sur vos produits. C'est le message que le président Donald Trump a fait passer cette semaine aux Européens. Si la menace de guerre commerciale n'est pas une surprise, le choc pourrait être dur à encaisser. Faut-il résister à la pression ou se dépêcher de négocier? De quelle marge de manœuvre politiques et économiques l'Union Européenne dispose-t-elle? Nous en discuterons avec nos invités. Nicole Niesoto, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, professeur émérite au Conservatoire National des Arts et Métiers. Votre dernier ouvrage, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, est paru aux éditions du CNRS. Et à vos côtés, Vincent Vicard, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes directeur adjoint du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, et responsable en son sein du programme Analyse du commerce international. Vous êtes vous l'auteur de « Faut-il réindustrialiser la France ?» point d'interrogation aux éditions des presses universitaires de France. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Nejma Brahim.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart qui vient de publier deux de vos reportages réalisés en Californie auprès des migrants sans-papiers menacés d'expulsion. À Bakersfield, dans les environs de Los Angeles, la police a déjà procédé à des arrestations et ce, dès le début du mois de janvier, avant même l'investiture de Donald Trump. L'expulsion hors du territoire des États-Unis des migrants illégaux, c'était l'une des principales promesses de campagne du républicain. Et dans certains comtés, comme en Californie, la peur a envahi les chantiers, les entrepôts et les champs où s'affairaient d'ordinaire les travailleurs immigrés. Est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire, Nejma Brahim, le contexte économique et social de la ville de Bakersfield, 400 000 habitants, c'est la capitale du comté de Kern. Quels sont les secteurs qui font vivre cette petite ville ?
Oui, alors tout à fait. Pour situer un petit peu, Bakersfield, c'est au nord de Los Angeles, à environ 2 heures de route en voiture, et c'est donc dans le comté de Kern, un comté qui vit beaucoup des secteurs de l'agriculture. Donc quand j'y étais, c'était un peu le moment de la récolte des oranges notamment. Donc beaucoup de travailleurs immigrés travaillaient à la récolte de ces fruits au moment où j'y étais, mais aussi de la construction. Et puis pour vous donner un petit peu de chiffres sur l'économie locale, en gros, ils produisent 20% de la nourriture américaine, ce qui est quand même énorme, pour environ 10 milliards de dollars par an. Donc c'est vraiment pas anodin. Et on compte dans ce comté de Kern environ 70 000 personnes sans papier, dont une grande partie travaille dans le secteur de l'agriculture notamment.
50% des travailleurs clandestins travailleraient dans le secteur ouvrier notamment, mais il y a aussi évidemment la restauration, le bâtiment, vous l'avez évoqué, l'entretien. Le 7 janvier, la police aux frontières a mené une importante opération à Bakersfield. Comment s'est-elle déroulée? Est-ce qu'on connaît le nombre de personnes qui ont été arrêtées ce jour-là?
Oui, alors c'était une opération pour le moins surprenante, à la fois pour les travailleurs immigrés qui ont été concernés, mais aussi par tous les observateurs, les ONG, les chercheurs qui travaillent sur la question migratoire aux États-Unis. C'est une des plus grosses opérations d'arrestation et d'expulsion de ces derniers temps. Et elle survient avant même l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. C'est aussi ça qui a surpris. Donc ça a commencé notamment devant les magasins de Home Depot, qu'on pourrait comparer ici, par exemple, aux enseignes Leroy Merlin ou Ikea. donc enseigne de bricolage, devant laquelle chaque matin, très tôt, entre 6h et 8h du matin, des travailleurs immigrés patientent en attendant que de potentiels employeurs viennent leur proposer du travail. Pour la plupart du temps, ce sont des missions à la journée, qui sont évidemment rémunérées un peu au rabais, au noir, comme on pourrait le dire ici en France. J'en profite pour dire que ça existe aussi en région parisienne, hein, c'est pas quelque chose qui n'existe qu'aux États-Unis. Et donc ça a commencé là-bas en fin de matinée, le 7 janvier, vous le disiez, avec la Border Patrol, donc l'équivalent de la police aux frontières en France, qui arrive avec de gros pick-up en nombre et qui donc procède à des contrôles d'identité et des arrestations pour les travailleurs immigrés qui n'étaient pas en mesure de présenter leur papier, on pourrait dire leur carte de séjour, en tout cas un permis de séjour qui les autorise à être aux États-Unis de manière légale.
Et cette opération, pardon, elle a beaucoup surpris, d'une part parce que la Border Patrol normalement opère aux abords de la frontière. Donc déjà, comment expliquer qu'ils se trouvent aussi loin? On est à 400 km de la frontière avec le Mexique. Et deuxième question, vous le disiez, cette opération a eu lieu avant l'investiture de Donald Trump. La question est donc, qui l'a ordonné?
Oui, alors c'est effectivement ce qui a beaucoup surpris. Habituellement, c'est plutôt les services de ICE, donc les services de contrôle de l'immigration et de la douane, qui procèdent à de tels contrôles et de telles arrestations, menant parfois à des expulsions. Et là, c'est la police aux frontières qui, normalement, effectivement, est plutôt présente à la frontière, comme son nom l'indique. Donc, les observateurs supposent que cette partie de la police aux frontières, ce bureau de la police aux frontières, était plutôt convaincu par les idées de Donald Trump et a voulu procéder à un test. D'ailleurs, ça a été de sa propre initiative, hein. Ça n'a pas été quelque chose de validé plus haut, en réalité, cette opération. Et donc, beaucoup estiment que c'était un test pour voir combien de personnes ils étaient en capacité de contrôler, d'arrêter et ensuite d'expulser en vue de pouvoir appliquer les plans à venir de Donald Trump. Et l'autre question, pardon, c'était...
Oui, c'est la même chose. Qui l'a ordonnée et pourquoi? Comment se fait-elle qu'elle se retrouvait aussi loin de la frontière? Mais vous y avez répondu.
Ouais. Alors, et après, juste pour compléter, donc ça s'est produit devant les magasins de Home Depot, mais aussi au niveau d'une station essence où se regroupent beaucoup de travailleurs immigrés qui passent par là, notamment pour prendre un repas, un sandwich pour leur pause déjeuner avant d'aller sur les champs agricoles et aussi sur la route, puisqu'ils ont ensuite continué jusqu'à la fin de la semaine en procédant à des contrôles routiers, en arrêtant, alors c'était pour beaucoup... des contrôles aux faciès, hein, donc des personnes qui étaient très typées latino en réalité, et ils ont arrêté par exemple une mère de famille qui était dans sa voiture, qui rentrait chez elle tout simplement, et qui a été pour le coup expulsée au Mexique. Ça, c'est ce qui a été remonté aux ONG, laissant derrière elle deux enfants. Donc c'est une amie qui les a récupérés et qui s'en occupait jusqu'alors. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais qui allait essayer aux dernières nouvelles de les lui renvoyer au Mexique. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de la catastrophe et des drames humains que ce type d'opération peut engendrer.
La rapidité de la reconduite aux frontières, elle affleure dans plusieurs témoignages. Et vous citez aussi Victor, qui sur les réseaux sociaux explique qu'il a été extrêmement rapidement reconduit à Calexico, à la frontière avec le Mexique. Nejma Brahim, vous rencontrez également Carlos, qui vit depuis 20 ans aux États-Unis, mais n'a toujours pas de papier. De quoi vit Carlos en temps ordinaire, si l'on peut dire ça comme ça?
Oui, alors Carlos, il a échappé de peu à cette opération, parce qu'il a été prévenu en réalité par l'agent de sécurité du magasin Home Depot en question. Donc il n'est pas venu travailler ce jour-là. Et Carlos, il travaille dans le BTP, dans le secteur de la construction. Et en général, il touche entre 150 et 160 dollars par journée de travail. Mais évidemment, les heures ne sont pas comptées. Donc il commence très tôt le matin et il termine très tard le soir. C'est pas beaucoup, hein, pour un telle mission, si je puis dire. Et surtout, c'est très variable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journées dans la semaine où il n'aura pas de travail. C'est vraiment au bon vouloir des employeurs et en fonction de leurs besoins, évidemment, sur les chantiers de construction. Carlos, ce qu'il me disait, c'était qu'il préférait être pauvre et rester aux États-Unis plutôt que de rentrer dans son pays où la situation était catastrophique, donc le Salvador, où le travail ne permet pas de vivre là-bas. Et alors, ce qui est terrible aussi, c'est que Carlos, tous les membres de sa famille ont des papiers aux États-Unis. Il est le seul à être encore sans papier après 20 ans de vie sur le territoire américain. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut être très long en termes de procédure de régularisation pour les personnes sans papier là-bas.
Carlos, il vous confie qu'il ne pense pas faire partie des gens qui seront visés par les vagues d'arrestation. Qu'est-ce qui lui fait tenir une telle conviction? Pourquoi pense-t-il qu'il ne sera pas visé?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y avait d'un côté une part d'ego, de penser qu'il ne serait pas visé et que Donald Trump ne s'en prendrait qu'aux criminels, qu'aux délinquants étrangers. Et je pense aussi qu'il y a une partie des populations immigrées, y compris celles qui sont sans papier, qui finissent par adhérer un peu au discours politique officiel qui est tenu là-bas. Et c'est assez terrible.
Et c'est assez paradoxal.
Bien sûr. Notamment parce que je pense que ça leur permet de se démarquer des mauvaises personnes, entre guillemets, celles qui peuvent mal se comporter sur le territoire américain. Une façon un peu de se désolidariser de ces personnes-là et de dire, moi, je suis quelqu'un de bien, ok, expulsez les autres, mais nous, laissez-nous sur le territoire, continuez à vivre une vie normale. Et c'est quelque chose que j'ai observé là-bas, effectivement, que j'ai entendu dans la bouche de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, mais qui ne m'a pas surprise, parce que c'est quelque chose que je retrouve aussi, par exemple, en France. Je pense qu'en fait, plus on a des discours politiques visant à criminaliser les personnes étrangères et notamment celles qui sont en situation dite irrégulière, et plus ces personnes-là vont tenter de prendre de la distance avec tout ça et de se démarquer pour essayer de garder leur place ici, tout simplement.
C'est assez étonnant dans vos reportages, effectivement, de lire Carlos qui dénonce les immigrés, entre guillemets, criminels et délinquants.
Et va jusqu'à défendre Trump.
Et voilà. Nejma Brahim, vous vous êtes rendue également au Mercado Latino. C'est le lieu de rencontre emblématique des migrants latinos à Bakersfield. De quoi témoignent les habitants? Comment ont-ils réagi après l'opération de police?
Oui, alors c'est un petit marché latino avec beaucoup de couleurs, plein de restaurants et de petits commerces sur place qui ne sont tenus que par des personnes latinas. Et alors c'était une semaine quasiment après la fameuse opération qui a été menée par la Border Patrol, et beaucoup de personnes ont préféré garder le silence parce qu'elles étaient encore assez terrifiées par ce qui s'était passé. Moi, j'ai pu rencontrer un couple, donc Karina et son mari Chris, donc c'est un couple mixte. Elle est du Salvador, elle a depuis été régularisée, mais elle a vécu plus de 10 ans sans papier aux États-Unis, et lui est américain. Elle a été régularisée notamment parce qu'elle était mariée à un américain. Et eux étaient, alors ils m'ont tenu aussi un peu le même discours hein, sur la politique de Trump, qui était plutôt bien à leurs yeux, s'agissant de l'expulsion des criminels et des délinquants. Mais en réalité, je pense que l'opération leur a fait ouvrir les yeux. Et ce qu'ils m'ont dit après m'avoir raconté tout ce qui s'était passé, y compris l'arrestation de deux personnes qui étaient à bord de leur véhicule, dont un avait la nationalité américaine, mais a été soupçonné d'être étranger et sans papier simplement à cause de ses traits, en réalité, hein, de son faciès. C'était un contrôle faciès. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il ne fallait pas qu'on en arrive là à ce que des personnes innocentes et en plus travailleuses par ailleurs soit arrêtée et potentiellement à risque d'être expulsée. Donc je pense que ça leur a vraiment ouvert les yeux. Ils ont pris une claque à ce moment-là, et ils se sont dit ok, finalement ce sont peut-être des politiques un peu dangereuses, et il faut absolument qu'on n'en arrive pas là par la suite. Faut dire aussi que l'ami d'une des filles de Karina, son grand-père a été arrêté. grand-père. Donc ça veut dire qu'il a un certain âge. Et au moment où je les ai rencontrés, ils avaient toujours pas de nouvelles de lui. Ils savaient pas où il était. On pense en centre de détention, parce qu'un certain nombre de personnes ont été placées en centre de détention en attendant de voir s'il était possible de les expulser. Mais il n'avait pas de nouvelles de lui. Et je pense que le fait qu'une personne proche de leur entourage ait été concernée par cette opération leur a aussi permis de mieux comprendre les enjeux de ce type de politique.
Une partie des habitants encore sous le choc, dites-vous, et puis des conséquences qui se font d'ores et déjà sentir sur l'activité économique de la ville, puisque de nombreuses personnes hésitent à se rendre sur leur lieu de travail par peur d'y être arrêtées. Nejma Brahim, vos reportages nous emmènent aussi à Péris. C'est une petite municipalité située là au sud-est de Los Angeles, et vous vous rendez dans un centre juridique qui propose des ateliers de sensibilisation aux droits à destination des personnes sans papier. Quel type de conseils et d'informations sont dispensées dans ces ateliers?
Oui, alors c'est une toute petite ONG, donc il y a ses bureaux à Péris, c'est à environ 2 heures de train de Los Angeles pour situer un petit peu à l'est. Et donc quand j'arrive, il y a un stand devant l'entrée de l'ONG. Ce stand en réalité a été installé il y a déjà quelques temps pour répondre à l'affluence, parce que depuis la réélection de Donald Trump, beaucoup de personnes immigrées qui vivent à proximité de Péris sont inquiètes, ont peur pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants. Et donc, se rendent dans les locaux de cette ONG, notamment par le bouche à oreille, pour essayer d'obtenir un certain nombre d'informations et de conseils, voire un examen personnalisé de leur situation. Et donc, lorsque je m'y rends, il y a un atelier dit de sensibilisation aux droits. Donc TODEC le fait, il y a une autre ONG qui s'appelle CHIRLA qui le fait à Los Angeles. Je dirais qu'il y en a 2 ou 3 qui le font. Et c'est des ateliers qui ont été vachement renforcés en réalité depuis l'élection de Donald Trump, pour essayer d'apporter un maximum d'éléments aux personnes. Et on leur apprend à la fois leurs droits, bien sûr, notamment le droit de garder le silence, le droit à un avocat, des droits très basiques mais que les personnes immigrées peuvent ignorer. Et on leur apprend aussi à faire la distinction entre les différents services, les différents types de personnes, d'agents qui pourraient mener à des contrôles d'identité et donc leur arrestation.
Et en cas d'arrestation, on leur conseille de montrer ce qu'on appelle la carte rouge. De quoi s'agit-il?
Oui, la tarjeta roja en espagnol, la carte rouge, c'est quelque chose qui a été créé par les ONG et qui est donc distribué régulièrement aux personnes immigrées, sur laquelle figure la liste de tous leurs droits, à la fois en anglais et en espagnol. Et c'est quelque chose que les personnes immigrées peuvent tendre à un agent de ICE, par exemple, donc les services de contrôle de l'immigration et de la douane, ou à la Border Patrol, la police aux frontières, pour pouvoir ensuite garder le silence et ne pas avoir à s'exprimer, parce que là-bas, tout ce qu'elles sont susceptibles de dire peut évidemment se retourner contre elles. Et c'est très important, on leur apprend aussi, en cas de contrôle, par exemple, à leur domicile, de ne pas ouvrir la porte, et si les agents ont une ordonnance pour leur permettre de procéder à leur arrestation ou leur expulsion, leur demander de la glisser par exemple sous la porte pour ne pas avoir à ouvrir la porte. Et il y a une distinction entre les ordonnances, il y a l'ordonnance judiciaire et l'ordonnance administrative, et par exemple l'ordonnance administrative qui vient donc des services fédéraux, par exemple les agents ICE, ne permet pas d'entrer sur une propriété privée, c'est important de le souligner. En revanche, s'il s'agit d'une ordonnance judiciaire, les agents peuvent entrer, et donc là, ils sont obligés d'ouvrir la porte.
Il faut rappeler aussi, Nejma Brahim, que la Californie fait partie de ce qu'on appelle aux États-Unis les États sanctuaires, ces villes ou ces territoires qui ont décidé de s'opposer à certaines mesures fédérales visant les migrants en situation illégale. Est-ce que Los Angeles et ses environs ont vraiment les moyens de s'opposer à des mesures fédérales? Est-ce qu'elles sont vraiment un sanctuaire pour les sans-papiers?
Oui, alors il y a une centaine de villes et un certain nombre d'États qui ont endossé ce rôle de sanctuaire. C'est une question un peu compliquée, parce que c'est encore trop tôt, je pense, pour pouvoir y répondre. Moi, c'est quelque chose que je vais essayer de suivre dans la durée. Mais pour la ville de Los Angeles, par exemple, on peut dire qu'ils ont, en conseil municipal, adopté une motion dans laquelle les élus s'engagent à ne pas appliquer de potentielles lois sur l'immigration à venir dans le futur. et à ne pas collaborer avec les services de fédération, fédéraux sur la question de l'immigration. Donc ne pas fournir par exemple d'informations qui pourraient permettre de mener ensuite à des arrestations, voire des expulsions d'étrangers. C'est déjà un premier pas. Ça, ils l'ont fait en novembre, donc après la réélection de Donald Trump. On verra ce qu'il sera possible de faire concrètement, notamment avec les menaces de Donald Trump envers tous ces États et ces villes sanctuaires, de couper par exemple les aides, etc. C'est là qu'on verra ce qui sera possible de faire.
En tout cas, selon un groupe de jeunes salvadoriens que vous rencontrez, eux disent ne pas se sentir particulièrement en sécurité à Los Angeles. Et le fait est que là, l'opération de police que vous décrivez a bien eu lieu en territoire californien. Merci infiniment, Nejma Brahim, d'être venue dans le retour de terrain. Vos reportages en Californie auprès des communautés de travailleurs sans papiers menacés d'expulsion, c'est à lire sur le site de Mediapart. Merci beaucoup.
Merci.
Ian Stevens et Angelo Di Agustin qui chantent cette Californie fictive où tout pourrait recommencer, extrait de leur album sorti en 2021, A Beginner's Mind, un esprit débutant. Seconde partie à présent de l'émission consacrée elle aussi aux premières déclarations du nouveau président américain qui menace les Européens de guerre commerciale.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
D'autres pays sont également de grands abuseurs. Vous savez, il n'y a pas que la Chine. La Chine est un abuseur, mais l'Union européenne est très très mauvaise avec nous. Ils nous traitent très mal. Ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas non plus nos produits agricoles, ils ne prennent pas grand-chose. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Ils nous traitent très très mal. Ils doivent donc s'attendre à des droits de douane. C'est le seul moyen d'être équitable. On ne peut pas être équitable sans cela. L'Union européenne nous a très mal traités, mais en fait, tout le monde nous traite mal.
C'est un outil de pression économique redoutable et Donald Trump, qui se surnomme lui-même Tarifman superdouanier, ne se prive pas d'en faire usage. Le nouveau président des États-Unis a menacé cette semaine d'augmenter les droits de douane pour les marchandises en provenance de nombreux pays. La mesure vise ses adversaires, comme la Chine, mais aussi ses alliés et partenaires. Le Canada et le Mexique sont les premiers concernés. Les Européens, comme on vient de l'entendre, sont également dans le viseur. Si la menace de guerre commerciale n'est pas une surprise. La question est de savoir comment y répondre. Face à une stratégie de pression maximale, quelles sont les options pour les Européens? Faut-il se précipiter pour négocier ou bien répliquer par des mesures similaires? Quelles seront les répercussions de ces tensions commerciales sur les dossiers géopolitiques, à commencer par la guerre en Ukraine? On en discute avec nos invités Nicole Niesoto et Vincent Vicard. Et on commence, pas, comme chaque vendredi, par l'édito de Marc Sémo.
Merci Mélanie. Alors, effectivement, pas une fois pendant son long discours d'investissement, Donald Trump n'a prononcé le mot allié ni même partenaire. Pour le nouveau président américain, il n'y a que des adversaires, voire des ennemis, et des vassaux. Avec les premiers, tels Vladimir Poutine ou Xi Jinping, qu'il tend plutôt d'ailleurs à ménager, il veut négocier en position de force. Au second, qu'il traite beaucoup plus mal, il impose sa loi et menace ceux qui la refusent d'en subir toutes les conséquences. L'Europe est en ligne de mire. Coupable à ses yeux d'avoir un excédent de quelque 157 milliards d'euros dans ses relations commerciales avec les États-Unis. Il la dénonce comme une petite Chine et menace de la traiter bien plus rudement. C'est un véritable crash test pour les 27 aujourd'hui. Menacés de décrochage technologique, en panne économique, incapables de prendre en main seule leur sécurité face à la menace russe, ils sont désormais au pied du mur. Alors, sauront-ils trouver une réponse commune? C'est en tout cas l'enjeu du sommet qui doit se tenir le 3 février prochain. La tentation de jouer en solo sa propre partition est déjà bien palpable. Il y a le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, que le Trump a longtemps reconnu comme son principal interlocuteur européen, et surtout maintenant la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, qui assistait d'ailleurs à la cérémonie d'investiture. Il y a au sein de l'Union européenne une forte tentation à chercher un compromis à tout prix face à la menace d'augmentation des tarifs douaniers afin d'éviter une dévastatrice guerre commerciale. C'est la stratégie de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, mais aussi de l'Allemagne, qui serait très pénalisée. À l'opposé, d'autres, dont la France, clament qu'il faut savoir se montrer ferme, d'autant que l'Europe, avec son grand et prospère marché, est le second partenaire économique de Washington. La vraie question reste donc celle de la volonté politique des Européens pour peser sur une relation transatlantique qui se fait toujours plus clairement transactionnelle.
Merci beaucoup Marc Semo, et on va parler justement de cette volonté et des différentes stratégies d'ores et déjà affirmées par les uns et les autres. Mais peut-être pour commencer, votre sentiment, votre interprétation, Nicole Nesotto, sur ces premières menaces en matière commerciale énoncées par Donald Trump. Que vise-t-elle selon vous en priorité? Est-ce qu'il s'agit de réduire le déficit commercial qui semble être une obsession du nouveau président, ou de mettre les Européens sous pression politique, ou peut-être les deux? Mais pour commencer à essayer de distinguer ce qui relève de la stratégie et des priorités commerciales.
Oui, on est tous un peu ébahis des déclarations, par les déclarations de Donald Trump. Et donc je pense qu'il faut peut-être remettre dans le contexte historique. Les guerres commerciales entre l'Europe et les États-Unis, elles ne sont pas nouvelles, elles ont toujours existé. Ce qui est nouveau, ou du moins durant toute la guerre froide, pendant toute la relation transatlantique normale, il y avait un gentleman understanding qui disait que l'alliance est défendue par les États-Unis et que, en revanche, les guerres économiques étaient licites entre Européens et Américains. Donc, on pouvait faire confiance à l'Amérique pour nous défendre et se battre à mort contre les entreprises américaines pour assurer le succès des nôtres. Et ceci était acceptable. C'était une espèce de schizophrénie normale. Ce qui est très nouveau avec Donald Trump, c'est que c'est cette règle qui disparaît. L'étanchéité entre la défense et le commerce a volé en éclat dans le discours de Donald Trump, puisqu'il nous menace de tout si on n'achète pas plus de voitures ou de je ne sais quoi aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et les Européens doivent s'habituer à cette espèce de chantage global. C'est pas simplement un chantage commercial, c'est un chantage global. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est plus difficile pour les Européens aujourd'hui, parce qu'on a une double menace à gérer. On a la menace d'agression à l'Est par la Russie et la menace d'abandon à l'Ouest par les États-Unis. Et donc, ceci explique un peu l'embarras des Européens et même la peur des Européens, à la différence, par exemple, moi je me souviens, en 2004, il y avait des guerres commerciales horribles entre les États-Unis et l'Europe sur Boeing, sur les subventions, par exemple, à l'aéronautique ou à la politique agricole commune. Et on n'avait pas peur, on allait devant l'OMC, ils ont été condamnés à plusieurs centaines de millions de dollars de pénalités. On n'avait pas peur parce qu'on savait qu'ils allaient nous défendre. Là, on a peur, parce que c'est pas simplement le commerce qui est en jeu, c'est aussi les conséquences de ce chantage sur notre sécurité. Donc je crois que le moment est grave et que les Européens ont de quoi être surpris de cette politique américaine qui remet en cause le fondement même de l'alliance. Moi, je dis l'alliance, autrefois c'était tous pour un pour tous, maintenant c'est tous pour un et un pour personne.
Et d'ailleurs, comme vous l'évoquiez, sous le mandat du président Biden, les États-Unis, Vincent Vicard, n'ont pas été tendres, entre guillemets, avec leurs partenaires européens sur le plan économique. La grande loi IRA, Inflation Reduction Act, prévoit notamment des mesures de compétitivité américaine qui vont avoir des conséquences pour les Européens. Juste peut-être pour bien préciser cette histoire du déficit commercial entre les États-Unis et l'Europe. Donald Trump parle de 350 milliards.
Marc Semo évoquait un autre chiffre de 140. Moi, j'ai lu 160, 130 milliards. Peut-être au-delà du chiffre exact, peut-être pouvez-vous nous expliquer quelle est l'ampleur, quelle est la préoccupation américaine par rapport à ce déficit et quels en sont les pays en Europe qui en sont les principaux bénéficiaires aujourd'hui?
Alors oui, le chiffre, alors il y a beaucoup de chiffres qui circulent, le chiffre de 350 milliards est faux, c'est l'ensemble des exportations américaines vers l'Union européenne, sachant que voilà, l'Union européenne exporte à peu près un peu plus de 500 milliards, donc ça fait effectivement 100, 156 milliards d'euros de déficit en 2023. Donc on est bien effectivement sur un chiffre beaucoup moins important que celui que donne Donald Trump, ce qui représente une part relativement limité du déficit total américain, parce que le déficit commercial sur les échanges de biens américains, il est extrêmement important, de l'ordre de 1000 milliards d'euros, enfin de dollars, et donc il est extrêmement important. Le premier pays qui est à l'origine de ce déficit, c'est la Chine. Le second, c'est le Mexique. Et l'Union européenne, dans son ensemble, arrive derrière ces deux pays et est assez proche d'un pays comme le Vietnam. Donc, on retrouve bien les pays qui sont ciblés aujourd'hui par Donald Trump et par les États-Unis. Donc, c'est aussi un sujet qui est directement relié au sujet de l'industrie américaine et qui est vraiment le sujet de l'emploi industriel américain et de la disparition de l'emploi industriel américain qui est derrière.
Et au sein de l'Union européenne, quels sont les pays qui seraient, on a pas mal parlé de l'Allemagne, mais elle n'est peut-être pas la seule, quels sont les pays qui ont le plus à perdre et à craindre d'une hausse des tarifs douaniers aujourd'hui?
Alors, très clairement, il y a l'Allemagne qui, de manière générale, est le grand pays exportateur européen et qui a des excédents commerciaux assez importants, notamment dans l'automobile. Et on entend beaucoup Donald Trump sur l'automobile et sur les exportations automobiles européennes et sur le fait que les Européens achèteraient trop peu de voitures américaines, ce qui est une question qui peut être posée. Donc l'Allemagne et derrière on a aussi l'Irlande particulièrement et notamment sur l'industrie pharmaceutique irlandaise, notamment des entreprises américaines qui ont investi, qui produisent en Irlande et qui exportent vers les États-Unis. Donc ça aussi c'est un grand pays et un petit peu dans une moindre mesure l'Italie aussi qui a beaucoup d'exportations et un excédent commercial assez important avec les États-Unis.
Marc Semo.
Est-ce que justement, paradoxalement, la France serait moins touchée dans la mesure où ses exportations, en bonne part aussi le produit de luxe, sont ceux sur lesquels l'augmentation de prix due à une augmentation des tarifs douaniers, finalement, joue assez peu. Quand vous voulez acheter un sac à main de luxe de telle ou telle marque comme statut symbole, finalement, le fait qu'il coûte 20 à 30 ou même plus de dollars ne fait pas une grosse différence et que finalement ce type d'idem pour certains vins, etc. Et donc que finalement ces pénalités des tarifs douanières joueraient moins.
Alors la France est moins exposée parce qu'on exporte moins vers les États-Unis, donc ça représente moins de nos exportations et moins de notre PIB. Après sur la composition, c'est aussi des produits qui sont iconiques et donc qu'on peut cibler et qui ont souvent été ciblés, le champagne, les fromages, éventuellement les produits de luxe ont souvent été ciblés parce que c'est des produits qu'on peut reconnaître et qui sont emblématiques. Et donc ça c'est la question et ça va être la question. Est-ce que pour l'instant ce qui a été annoncé c'est aussi un changement d'ampleur dans les droits de douane et les produits qui vont être ciblés parce que on parle aujourd'hui de 10% de droits de douane en plus sur tous les produits et c'est pas du tout ce qu'on avait avant.
Oui, c'est plus seulement un secteur ou un produit phare ou symbolique, c'est l'ensemble des produits exportés aux États-Unis.
Exactement. Donc la menace elle est complètement différente de celle qu'on a pu connaître durant la première présidence de Donald Trump, et puis tous les autres conflits commerciaux qui existaient, dont certains sont d'ailleurs ont été juste mis de côté avec des solutions temporaires sous Joe Biden, et qui vont sûrement revenir d'ailleurs sur les questions d'Airbus par exemple, la taxation des multinationales, un certain nombre de sujets qui sont encore là.
Alors la question bien sûr c'est quelle réponse apporter à cette menace qui n'a pas encore été mise à exécution. Nicole Niesoto, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a dit nous serons pragmatiques mais nous resterons fermes sur nos principes. Elle a également tendu une main vers la Chine en disant qu'il fallait approfondir les relations avec Pékin. Comment est-ce que vous interprétez ce terme de pragmatique? Est-ce que ça veut dire, nous n'avons pas les moyens d'un bras de fer, alors nous allons négocier?
Non, je crois que le pragmatisme veut dire nous n'allons pas être idéologiques comme vous. Parce qu'il faut quand même voir que ce qu'il y a dans le discours de Donald Trump, c'est pas une rationalité commerciale, c'est vraiment une idéologie anti-libéralisme total. C'est la promotion d'un protectionnisme libéral, quelque chose de tout à fait nouveau, qui est le contraire de ce que fait l'Union européenne, au contraire, de respecter les règles. Donc, être pragmatique, ça veut dire, je crois, qu'on va voir secteur par secteur, et selon aussi, si c'est 10% d'augmentation ou 20% d'augmentation, c'est complètement différent. Mais enfin, Madame von der Leyen est assez représentative des hésitations des Européens, parce que sa première déclaration après l'élection de Donald Trump a été de dire, tout de suite, on va acheter plus de gaz de schiste américain. Donc, une première réaction qui était de dire, calmez-vous, on va acheter plus. Elle n'a pas dit qu'on allait acheter des voitures américaines, parce que personne n'a envie d'avoir une voiture américaine, alors que les Américains adorent les Mercedes. Il faut aussi savoir que Mercedes construit des usines aux États-Unis. Donc, si Trump était intelligent, il construirait peut-être des usines américaines pour produire des voitures américaines en Europe. Je ferme la parenthèse. Mais donc, elle a commencé par dire, calmez-vous, on va acheter plus. Elle a été soutenue en cela par Madame Lagarde, qui est complètement sortie de son mandat, en disant, on va acheter plus d'armement américain, qui est absolument, les deux déclarations de ces deux responsables européennes étant contraires aux priorités européennes de Green Deal et de défense européenne. Mais bon. Ensuite, ça, c'est le premier temps, et ça a suscité un certain nombre d'émois à Bruxelles et au sein des États membres. Donc, dans le deuxième temps, dans son discours à Davos, elle fait un peu marche arrière et elle dit, on va être pragmatique, on va voir selon les circonstances. Donc, on n'a pas d'idéologie particulière de résistance ou de soumission, on verra. Et à ce moment-là, on peut se demander quelles sont effectivement les réponses possibles que les Européens peuvent avoir sur ces augmentations de droits de douane. Elle les a esquissés d'ailleurs dans son discours à Davos. Premièrement, on rétorque de la même façon. Donc, si vous mettez 10% sur tout, on mettra 10% sur tout.
C'est un levier important pour les Européens dans la structure du commerce. C'est-à-dire, est-ce que, entre guillemets, on peut leur porter préjudice autant qu'ils porteraient préjudice? Est-ce que ça se vaut 10% d'un côté, 10% de l'autre?
Mais c'est là où Donald Trump est complètement stupide. C'est qu'il n'y a pas d'un côté des produits américains et de l'autre côté des produits européens. Il y a énormément d'éléments américains dans les productions européennes et il y a énormément de produits ou d'éléments européens dans les productions américaines. Et donc, l'idée d'une taxe de 10% chacun pourrait effectivement être un élément de dissuasion vis-à-vis des États-Unis, parce que ça pénaliserait d'abord autant les producteurs américains, et surtout ça pénaliserait les consommateurs américains. Et moi, ce qui me rend plutôt optimiste sur ces guerres commerciales, c'est que ça ne peut pas tenir. Parce qu'à un moment, au début peut-être qu'effectivement il sera soutenu par son électorat en damant le pion à tous ces gens, tous ces profiteurs, comme il dit, mais dans un deuxième temps, c'est le niveau de vie américain qui va augmenter. Si tous les produits importés subissent des hausses de TVA, c'est quand même le consommateur qui va le payer. Mais en tout cas, bon, ça c'est la première solution, on reporte du tac au tac. Et voilà, Madame von der Leyen avait créé dès juillet une task force au sein du Conseil pour examiner quelles étaient les mesures de rétorsion. La deuxième solution, c'est d'accord, mais alors on cherche des substituts ailleurs. Alors, au lieu d'acheter du gaz de schiste américain, on va peut-être acheter plus de gaz aux Algériens ou plus de gaz, voire même se rabibocher avec les Iraniens pour avoir un contrat de gaz. C'est-à-dire, ça fait partie du chantage normal. Et puis la troisième solution, c'est d'essayer de recréer une espèce d'alliance contre-américaine avec le Canada, le Mexique, l'Inde, voire même la Chine. Vous l'avez dit, elle a été très ouverte vis-à-vis d'une nouvelle pensée à l'égard de notre commerce avec la Chine. Autrement dit, l'idée, c'est que quand même, les Européens ne seront pas des victimes placides des rodomontades américaines, et qu'on a les moyens, je pense, de résister et de répondre.
Marc Semo.
Oui, on a les moyens, ils sont évidents, et vous l'avez très bien expliqué. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique?
Alors, Il faut savoir, il faut se rappeler que quand même, le commerce extérieur, c'est une prérogative exclusive de la Commission. C'est une des rares prérogatives exclusives de la Commission où elle est le commissaire au commerce extérieur est libre de négocier comme il veut. Alors, ça, c'est la règle. En réalité, quand les enjeux sont tellement énormes, effectivement, le Conseil, les États membres doivent être d'accord, doivent donner des directives au commissaire. Mais quand même, la Commission a un vrai pouvoir. Si elle décide et si elle arrive à convaincre les États membres, elle a un vrai pouvoir d'initiative, de compétence. Je veux dire, le traité dit compétence exclusive en matière de commerce extérieur. Alors, en même temps, donc, il faudra que effectivement les États membres soient d'accord, ou en tout cas les grands États membres qui sont le plus éventuellement concernés suivent la politique qui serait éventuellement définie par la Commission. Pour l'instant, je crois qu'ils en discutent à peine. Ils n'ont pas commencé à discuter. Le sommet dont vous parliez du 3 février, c'est un sommet qui, au départ, était consacré à la géopolitique et à la défense, pas du tout aux guerres commerciales. Donc, on va voir comment la présidence polonaise inclut les deux sujet dans ce sommet informel. Mais quand on regarde ce qui s'est passé dans les précédentes phases, par exemple en 2016, quand Donald Trump, alors président, a décidé de taxer de 25% l'acier européen, on a rétorqué de façon unanime et consensuelle en sanctionnant un certain nombre de produits américains comme les Harley Davidson, par exemple, ou les jeans Levi's. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je parle sous votre contrôle, mais les Harley Davidson, le producteur, a délocalisé sa production en Thaïlande pour ne pas être soumis à la TVA européenne, mais du coup, ça n'a pas très bien marché. Ils n'ont pas fait faillite, mais ça ne va plus très bien pour Harley Davidson. Donc, on sait que les Européens peuvent être d'accord sur des politiques, des répliques sectorielles. Est-ce qu'ils seront d'accord sur une réplique globale? Ça, je ne sais pas.
C'est toute la question et on voit bien comment Donald Trump aurait tout intérêt à pousser les uns et les autres à négocier de manière individuelle, Vincent Vicard, malgré cette compétence exclusive que nous a rappelé Nicole Niesoto de la Commission européenne en matière de commerce. Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que chacun joue sa partition? Je pense notamment à l'Italie de Giorgia Meloni. C'était la seule représentante européenne présente lors de l'investiture. Est-ce qu'elle pourrait négocier pour son pays des mesures de faveur en matière commerciale?
Alors, c'est toujours une possibilité. On est dans les sujets commerciaux, on est justement dans comment trouver des leviers pour pouvoir faire plier justement notre opposant commercial. Pour le coup, c'est exactement ce qui se passe. On a parlé des Harley Davidson. Quand on taxe les Harley Davidson, c'est justement pour faire pression sur certaines personnes aux États-Unis qui vont elles-mêmes faire pression sur le gouvernement américain. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'effectivement, Donald Trump, il a assez peu de considération pour les consommateurs américains puisqu'il est prêt à augmenter les prix en mettant des droits de douane. Et ça, on a bien vu ce qui s'est passé lors de sa première présidence. C'est effectivement des prix qui se traduisent, les droits de douane se traduisent directement par des augmentations de prix pour les consommateurs américains. Les consommateurs américains, a priori, lui n'ont peu tenu rigueur, en tout cas en le reconduisant aujourd'hui. Mais par contre, on sait que du côté des producteurs américains, là, il y est beaucoup plus attentif. Et donc, on va effectivement trouver comment faire pression, comment influencer le comportement des autres. On est vraiment dans cet aspect transactionnel. Et donc, du point de vue européen, on voit bien qu'il y a des divergences d'intérêts. Et donc une volonté éventuellement de réduire ces d'essayer de négocier, mais après ça pose la question de quoi négocier. Même pour Giorgia Meloni, la question est quoi négocier. Effectivement, est-ce que c'est des achats d'hydrocarbures? Est-ce que c'est des contrats pour des grandes multinationales américaines de la tech? Est-ce que voilà, on voit bien que du point de vue de Donald Trump, et d'ailleurs c'est presque ce qui est étonnant, c'est que la question du déficit commercial a presque disparu dans sa rhétorique et il a ajouté de nouveaux sujets sur la taxation des multinationales pour les Européens. Il a ajouté des sujets sur le fentanyl et l'immigration pour le Canada et le Mexique. Donc on s'aperçoit que finalement les droits de douane, c'est un des instruments pour un ensemble de sujets, pour ouvrir un ensemble de sujets qui ne sont pas finalement uniquement les questions de déficit commercial, qui finalement, un peu étonnamment, ont l'air d'être passés un petit peu au deuxième plan, alors que dans toute la campagne, c'était vraiment le sujet et le lien à réduire le déficit commercial par les droits de douane.
Et je voudrais qu'on évoque à ce sujet le cas spécifique du Danemark. Il y a eu une conversation qui a été rapportée dans la presse le 15 janvier entre la première ministre danoise Mette Frederiksen et Donald Trump, dans laquelle il a menacé très clairement de tarifs très élevés le Danemark si, je cite, il ne cédait pas le Groenland aux États-Unis. C'est à quoi la première ministre a rétorqué que le Groenland appartenait aux Groenlandais. Mais est-ce que c'est une illustration de ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de coupures, il n'y a plus de frontières entre les questions commerciales et les questions géopolitiques. Et si on revient au Danemark, aujourd'hui, on sait que ce pays est très exposé puisque le marché américain est un marché d'exportation très important pour l'économie du pays. Quelle est la mesure de l'inquiétude au Danemark? De quel soutien de l'Union européenne sur quel soutien le Danemark peut-il compter sur ce point-là? Nicole Nesotto, pardon.
Alors, l'affaire du Groenland est vraiment typique de cette idéologie de la nouvelle administration américaine qui est une, comme le dit lui-même un de ses supporters républicains, une idéologie de prédateurs. Ils nous accusent d'être des profiteurs, eux, ils se définissent d'ailleurs, ce républicain dont j'ai oublié le nom, a dit « nous sommes the dominant predator », nous sommes le prédateur dominant. Il faut oser hein, quand même le dire. Et donc, je crois que la stratégie de Donald Trump, elle est double. Il y a d'une part, c'est une stratégie de racket familiale, c'est-à-dire on est tous une grande famille d'alliés et de voisins au nord et au sud, le Canada, le Mexique. Ce qui est à vous est à moi, puisque l'idée c'est de renforcer la puissance de l'Amérique contre la Chine. Et donc au départ, c'est une stratégie de racket, voilà, vous me donnez ça, puis je continue à vous aider, à vous défendre contre la Russie. C'est vraiment ce que font les mafias vis-à-vis des commerçants sur la terre entière. Et une fois qu'il aura obtenu ce qu'il souhaite pour renforcer la puissance américaine, c'est-à-dire passer gratuitement par le passage de Panama et exploiter gratuitement des ressources minières du Groenland qui sont interdites à l'exploitation aujourd'hui par les Groenlandais. Une fois qu'il aura ça, peut-être qu'il demandera autre chose. Peut-être qu'il demandera la Guyane aux Français, parce que I need it, comme il dit. Alors, cette stratégie, dans un deuxième temps, ce sera de vraiment s'attaquer à la puissance chinoise.
Pardon, vous ne pensez pas que ces demandes sur le Groenland ou sur le Panama, elles sont des stratégies de pression pour obtenir autre chose?
Non,
c'est vraiment les ressources minières du Groenland, le passage.
Je pense qu'il veut obtenir effectivement de passer gratuitement par le canal du Panama, puisqu'il dit qu'ils ont construit ce canal. Et pour le Groenland, c'est encore plus stupide. Pourquoi ? Parce que les Américains ont depuis longtemps, en Islande et au Groenland, une grande base militaire, avec beaucoup d'écoute sur l'ex-URSS ou la Russie aujourd'hui. Et donc, stratégiquement, il n'y a aucun problème entre les États-Unis et le Groenland indépendant. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est d'une part la ressource minière, parce que le gouvernement groenlandais qui autorise certaines exploitations, notamment de pétrole, en interdit d'autres, parce qu'ils ont une approche environnementale assez développée. Donc il veut ça, il veut un privilège d'exploitation pour l'Amérique, je pense. Et puis il veut, si jamais tout cela continue à fondre, avoir un accès privilégié à la route du Nord, à la route par les pôles. Et donc c'est vraiment du racket à l'égard d'un allié important, le Danemark. Et que peut faire l'Union européenne ? Ben, je rappelle que le Danemark est membre de l'Union européenne, que malheureusement pour Donald Trump, le Danemark, l'année dernière, en juin, a décidé de rejoindre la défense européenne, dont ils étaient exclus depuis leur origine. Ils ont décidé de rentrer dans la politique européenne de sécurité et de défense. Donc ils sont couverts par l'article 42.7 du traité de l'Union européenne qui dit que si un pays est attaqué, les autres doivent le défendre absolument. Et c'est ce qu'a dit récemment la France. Si Donald Trump s'en prend de façon illégale, voire violente au Danemark, nous allons défendre le Danemark.
Vous écoutez Culture Monde. Nicole Nesotto et Vincent Vicard sont nos invités pour parler des pressions commerciales d'ores et déjà exercées par le nouveau président des États-Unis contre l'Europe. Comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association de dessinateurs Cartooning for Peace. Notre sujet, vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Angel Boligan, un caricaturiste cubain installé au Mexique. C'est un dessin sans texte et sans parole, mais dont se dégage un bruit terrible. On y voit Donald Trump installé derrière une immense batterie, hein, l'instrument de musique, pas la batterie d'un moteur électrique, composée de multiples caisses et cymbales. Elles sont reliées à deux grandes enceintes qui se font face, au milieu d'elles, la planète Terre, qui paraît toute petite par rapport à la batterie. Donald Trump tient fermement entre ses mains ses deux baguettes, les bras levés, il s'apprête à entamer son solo et le résultat promet d'être assourdissant. Un dessin à découvrir sur le fil de notre compte Blue Sky et sur la page internet de Culture Monde. Une réaction peut-être, Vincent Vicard, à ce dessin.
Ça correspond bien à la stratégie de Donald Trump d'annoncer beaucoup de choses, de créer de l'incertitude et de créer une incertitude aussi sur ses propres objectifs et jusqu'où il est capable d'aller. Donc voilà, on est vraiment dans une situation où on est sorti des règles telles qu'on les connaissait, qui prévalaient quand même encore un petit peu lors de sa première présidence. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où même d'ailleurs, une bonne partie de ce qu'il avait annoncé, on s'attendait à des droits de douane dès le premier jour. Finalement, ils ont été repoussés peut-être à début février, peut-être à avril, parce qu'il a demandé un certain nombre de rapports à ses administrations pour le 1er avril. Donc voilà, on est vraiment dans cette incertitude. On a rajouté des objectifs sur l'immigration, sur la taxation des multinationales, autour des droits de douane. Donc on est vraiment dans cette incertitude et on a l'impression vraiment d'une position de négociation, d'une position transactionnelle, pour voir effectivement qu'est-ce qui va émerger de ça, de cette situation d'incertitude, de clown fou qui va rentrer dans le système international tel qu'il existe et puis voir comment, en remuant tout, on obtient éventuellement quelque chose qui en ressort au bénéfice des États-Unis, mais surtout de Donald Trump lui-même, à mon avis.
Si je comprends bien, il y a une dimension de test dans cette méthode qui est ici caricaturée avec l'instrument de musique, de savoir comment le bruit qu'on va faire réagir ou pas. Donc on en revient à la question de la réaction des uns et des autres. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une stratégie consistant à justement peut-être ne pas trop réagir tout de suite ou est-ce que se précipiter, comme je le disais tout à l'heure, pour négocier, pour dire on va acheter plus, oui, on va acheter plus, donner des gages. J'en reviens à cette question. Votre regard, votre sentiment sur finalement la stratégie la plus efficace aujourd'hui pour les Européens, est-ce qu'il faut mieux rester en retrait, laisser le bruit retomber ou se précipiter tout de suite pour être les premiers à négocier les meilleures conditions?
Il me semble que du côté européen, il y a surtout une nécessité à se mettre d'accord sur une stratégie avant d'aller négocier et justement avant de faire des déclarations. On a eu beaucoup de déclarations un peu contradictoires qui ont été soulignées tout à l'heure par Nicole Nunez-Otto. Différents acteurs européens. Aujourd'hui, il y a une nécessité de se mettre d'accord sur une position de négociation. On a des outils. On a développé ces 5 dernières années des outils, des instruments anti-coercition pour contrôler les investissements directs étrangers, pour répondre fermer l'accès au marché public sur un certain nombre de dimensions. On a développé des outils au niveau européen. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on veut les appliquer? On a les moyens de les appliquer. Et puis, il y a d'autres dimensions qu'on pourrait tout à fait utiliser. Par exemple, la taxation des multinationales sur le sol européen, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur lequel, bizarrement, on avait avancé sous la première présidence de Donald Trump. Il y avait une réforme du système de taxation des multinationales au niveau international qui permettait aux Européens de taxer en partie les multinationales américaines. Donald Trump a annoncé sortir de ce système-là. Eh bien, effectivement, on a des taxes sur les services numériques. C'est quelque chose qui pourrait revenir et qui peut faire partie des instruments de négociation aussi dans une posture vis-à-vis de l'économie américaine et de Donald Trump. Donc, le marché européen, l'accès au marché européen, faut pas oublier qu'il reste important pour les États-Unis, peut-être pas forcément directement par leurs exportations, mais aussi par les ventes qui sont faites sur le territoire européen. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et on voit que c'est important, en particulier pour l'entourage aujourd'hui de Donald Trump, ce qui est très différent d'il y a 4 ans.
Nicole Nunez-Otto, vous expliquez dans votre livre que désormais, ce sont les chocs extérieurs et les crises qui font avancer l'Europe, mais pas toujours. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est votre regard? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la façon dont cet électrochoc aujourd'hui peut souder, permettre de définir une stratégie commune, etc. Ou est-ce que là, on a un choc qui sera trop dur à encaisser pour les Européens? Je vous fais faire un petit peu de prospective.
Le problème, c'est que, encore une fois, les Européens ont deux électrochocs en même temps. Il y a l'électrochoc de la menace russe, et pour une bonne partie de nos partenaires européens, c'est une réalité. Les Polonais, les Baltes, les Finlandais, les Suédois ont peur. C'est pas simplement les Français qui se disent oh, « bon, non ». Ils ont peur, physiquement. Et de même, l'électrochoc à la fois commercial, idéologique de Donald Trump. Et donc, s'il n'y avait pas la menace russe, il n'y aurait aucun doute sur la réponse des Européens. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas la menace russe, il n'y aurait pas cette offensive américaine. Je crois que quand Donald Trump accuse les Européens d'être des abuseurs, c'est lui qui abuse de la situation. Il sait notre faiblesse stratégique, il sait qu'on est dépendant de l'Amérique pour leur défense, et donc il va en profiter pour nous soutirer le maximum de choses dont il pense avoir besoin. Et donc, moi je n'accuse pas les Européens de faiblesse, etc. Je reconnais que c'est extrêmement difficile pour les Européens de s'opposer à un allié qui devient un ennemi, alors qu'on a un vrai ennemi à notre droite, qui est la Russie. Donc moi, j'espère que les Européens vont retrouver une unité, j'espère qu'on va définir une vraie stratégie d'autonomisation progressive, définitive à l'égard des États-Unis, même après Trump. Parce qu'on ne va pas tous les quatre ans avoir peur d'un retour d'un Trumpisme qui nous affaiblirait. Donc il faut vraiment que les Européens sautent le pas vers la construction d'une autonomie totale, y compris stratégique, y compris militaire vis-à-vis des États-Unis. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. Et donc la vraie difficulté, c'est pas la réponse à Donald Trump, c'est la transition entre une situation de dépendance totale militaire qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'Amérique et une situation d'indépendance presque totale qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'eux. Et voilà, moi je compte beaucoup sur la présidence polonaise parce que les Polonais, on a de la chance d'avoir la Pologne en présidence ce semestre et non pas la Hongrie. Imaginez si ça avait été la Hongrie en présidente. On a une vraie chance parce que la Pologne de Donald Tusk, et je rappelle que Donald Tusk en 2016, quand Trump a été élu, Donald Tusk était président du Conseil européen à l'époque et il avait eu cette phrase extraordinaire, il avait dit: avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Donc, et donc, la Pologne est démocratique, anti-russe et pro-américaine, pro-OTAN. Et donc, il a absolument tout ce qu'il faut, toutes les contradictions nécessaires pour essayer de proposer aux États membres une stratégie efficace. Et j'espère, vraiment, je compte sur la Pologne pour nous en sortir.
Vincent Vicard, rapidement, pour conclure.
Une des questions, c'est justement comment la réponse à la menace actuelle de Donald Trump n'engage pas l'autonomie stratégique future. Et c'est pas effectivement en achetant des armes ou en laissant plus de place aux multinationales de la tech américaine sur le marché européen qu'on va créer cette autonomie stratégique future. Donc la question, c'est aussi comment on répond de façon à être cohérent avec cette construction d'autonomie stratégique future. I know I'm better.
On Your Side, pardon, extrait du dernier album du groupe de rock indépendant et féminin britannique The Last Dinner Party, paru l'année dernière. Merci à nos deux invités, Nicole Niesoto, je rappellerai pour vous, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, c'est paru aux éditions du CNRS, Vincent Vicard. Merci également votre ouvrage Faut-il réindustrialiser la France, c'est aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup Marc Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez au micro de Culture Monde à l'occasion du Nouvel An Lunaire. Nous vous proposerons une série consacrée aux diasporas chinoises à travers le monde. Nous raconterons la longue histoire des migrations en Asie du Sud-Est, celle des quartiers chinois de Paris, des travailleurs qui tentent leur chance en Afrique et enfin du blues des étudiants chinois. Et dans un instant, les midis de Culture. Stay